Jacques Soustelle, vous avez d'abord fait des études de philosophie et vous êtes devenu ethnologue. Oui. Comment êtes-vous passé de la philosophie à l'ethnologie?
Bien, d'abord, on pourrait dire qu'après tout, l'ethnologie, c'est une branche de la philosophie. Oui, si l'on entend par là quelque chose d'assez vaste, une conception peut-être pas tout à fait universitaire. En réalité, j'ai fait de la philosophie, effectivement, et alors que j'étais encore dans les tout débuts, puisque je préparais l'examen qu'on appelait alors la licence de philosophie, je suis tombé sur un professeur à l'université de Lyon, qui était en somme un disciple de Durkheim. Alors il nous a parlé beaucoup des Australiens, des Indiens, etc. Et ça a éveillé ma curiosité. Et puis d'ailleurs, j'avais toujours eu cette curiosité pour les peuples exotiques, si vous voulez, pour les sociétés différentes de la nôtre. Ça, c'était comme gosse même, je lisais des bouquins là-dessus, etc. Et alors, à Paris, n'est-ce pas, je suis entré à l'école normale supérieure en 1929, et le directeur de l'école était lui-même un sociologue de l'école de Durkheim, M. Boublé, et je lui ai demandé conseil, car, il faut vous dire une chose, je suis très mauvais mathématicien. J'étais toujours le dernier de ma classe en mathématiques. Et à l'époque dont je vous parle, donc 1929-1930, la philosophie officielle en France, celle de quelqu'un d'ailleurs pour qui j'avais beaucoup de respect, qui était Léon Braunschweig, c'était de la philosophie mathématique. Moi, j'étais tout à fait éberlué quand je voyais mes camarades de promotion, sortis généralement du lycée Henri IV à Paris, qui jonglaient avec les équations, avec les notions de haute mathématique, qui pour moi était véritablement, je ne dirais pas comme du chinois, car le chinois me paraît beaucoup plus facile à comprendre que cela. Alors, j'ai demandé donc conseil à M. Boublé, qui m'a dit, mais je vais vous mettre en rapport avec les ethnologues. Et c'est comme ça que je suis entré en relation avec deux professeurs qui, à mes yeux, sont restés mes maîtres, véritablement, qui étaient Marcel Mauss, alors professeur à l'école des hautes études, où je lui ai succédé, en somme, et Paul Rivet, qui était directeur du musée d'ethnographie, qui par la suite est devenu le musée de l'homme.
Et donc vous avez été l'adjoint.
J'ai été l'adjoint de Paul Rivet. Mais donc j'ai commencé à travailler avec eux, d'une part pour préparer un diplôme d'études supérieures, comme on disait alors, que j'ai passé sous la direction du doyen Delacroix sur des thèmes qui était en somme le chamanisme, n'est-ce pas? Inutile de vous dire que je n'avais jamais mis les pieds ailleurs qu'en France, et par conséquent, c'était uniquement livresque. Enfin, j'avais travaillé dans les bibliothèques, notamment au laboratoire d'anthropologie que dirigeait le professeur Rivet. Et puis, j'ai passé une agrégation de philosophie, avec beaucoup de Grecs, de Platon, Plotin. J'avais une interrogation sur les Énéades, donc vous voyez, de la philosophie pure, mais ça ne me déplaisait pas du tout, au contraire. Seulement, j'ai bifurqué alors carrément vers l'ethnologie, et Paul Rivet un jour m'a dit « il faut que vous alliez au Mexique ». J'étais au fond très hésitant entre deux zones, de l'Amérique, les Indiens d'Amérique, ou l'Océanie. Et finalement, ce qui m'a décidé pour les Indiens d'Amérique, notamment pour le Mexique, c'est qu'il y a un passé. Si vous faites de l'ethnographie aux Nouvelles-Hébrides ou à Tahiti, etc., c'est très intéressant.
On a affaire à des primitifs.
On a affaire à des... Je n'emploie pas le terme primitif. Hein. Mais on a affaire à des gens dont le passé n'a rien de bien prestigieux. Tandis que si vous êtes au Pérou ou au Mexique, vous avez ces magnifiques monuments, cet art plastique, ces bas-reliefs, ces statues, et dans le cas du Mexique, l'écriture, les manuscrits.
Enfin, une civilisation très évoluée.
Une civilisation qui remonte à 3000 ans. Alors là, ça m'a beaucoup séduit, vous comprenez? Et grâce justement au professeur Rivet, à peine ai-je passé l'agrégation de philosophie, que j'ai déserté la philosophie. En tout cas, la philosophie sorbonnarde, si vous voulez. Je me souviens que le président du jury d'agrégation, suivant l'usage, me fait passer dans son bureau, après le concours, n'est-ce pas? Et comme j'avais été reçu premier, il me donne à choisir entre deux ou trois postes de professeur dans des lycées de province. Je me rappelle qu'il y avait Ajaccio ou Bastia en Corse, et puis Montluçon, des endroits très séduisants par ailleurs. Je lui ai dit, non, monsieur le président, je pars pour le Mexique. Ah, c'est vous le sociologue, m'a-t-il dit d'un air et qui laissait entendre que cela ne lui paraissait pas tellement...
Très sérieux.
Voilà, mais enfin, c'est ce qui s'est passé. Et j'ai passé 2 ans chez les Indiens Otomis du Mexique central, qui sont encore 350 000, n'est-ce pas? Et puis, j'ai fait 2 incursions chez les Lacandones, ou Lacandons, comme on dit en français, qui sont des Indiens mayas à l'état pur, si je peux dire, puisque...
Ils, à l'époque
Encore aujourd'hui. Bien qu'il y ait des incursions chez eux, mais enfin, ils vivent dans la grande forêt au sud-est du Mexique, et ils ont conservé presque intégralement leur ancienne culture.
Et c'est de cette expédition chez les Lacandons que vous parlez, par exemple, dans votre ouvrage « Les Quatre Soleils ».
Oui, alors j'ai consacré, je crois, un chapitre ou deux à ces Indiens, n'est-ce pas? Et puis alors, par la suite, je me suis tourné de plus en plus vers le passé archéologique et notamment vers l'étude des mentalités. Vous savez, c'est une branche, en quelque sorte, de l'ethnologie, l'étude des conceptions des gens. Que pensait un Aztèque ou un Maya? Comment voyait-il le monde? Comment voyait-il leur propre vie dans le monde, n'est-ce pas? C'est, au fond, l'éternel problème de tous les êtres humains. Et ça, c'est une branche tout à fait passionnante, qu'on peut étayer sur, pas seulement sur les considérations fumeuses, mais sur le langage, sur la littérature, puisque nous avons une littérature aztèque, par exemple, importante, sur les monuments eux-mêmes, les représentations, les manuscrits, que sais-je encore. Il y a une multitude d'indices, c'est un peu comme, si vous voulez, un travail de détective à la chasse des notions et des conceptions humaines.
Qu'est-ce qui caractérise le regard de l'ethnologue?
Eh bien, voyez-vous, c'est que, je crois avoir écrit ça quelque part, on ne peut pas être ethnologue à n'importe quel moment d'une civilisation. Je veux dire par là que, prenons notre civilisation chrétienne au Moyen-Âge, elle était tellement sûre d'elle-même qu'au fond, elle considérait tout le reste comme inexistant ou négatif, les infidèles. C'est l'attitude de l'islam, en fait, vis-à-vis de nous, n'est-ce pas? Bien. Et puis, quand une civilisation n'est plus sûre du tout d'elle-même, alors elle n'a plus de, comment dirais-je, d'aune pour mesurer, n'est-ce pas? Nous sommes dans une phase où notre civilisation sait qu'elle n'est pas la seule possible, mais où elle s'estime tout de même importante, n'est-ce pas? Où elle estime qu'elle charrie avec elle des valeurs positives, mais en même temps, elle sait qu'il y a d'autres, qu'il y a eu d'autres civilisations, qu'il peut y en avoir d'autres, c'est-à-dire que c'est le moment favorable pour l'observation. L'ethnologue est un peu comme l'astronome à la surface de la Terre. L'astronome regarde les autres astres, mais il est entraîné par le mouvement de la Terre, d'où la relativité. Alors, il y a une relativité culturelle aussi. Nous sommes membres de notre culture et tous les efforts que l'on voudra ne pourront pas faire que je ne sois pas un Français du XXe siècle, chrétien, qui a connu ceci, cela, telles aventures de notre pays et de notre civilisation. On ne peut pas s'en abstraire complètement.
On peut, comme les jeunes actuellement, être séduit par le zen, par le bouddhisme, etc., mais on peut difficilement devenir soi-même.
Oui, vous savez, il faudrait se pénétrer tellement d'une culture, d'une langue, d'une mentalité différente, qu'à vrai dire, ça n'est pas possible. Seulement, tout de même, on peut se détacher suffisamment pour avoir une vue à ses objectifs, pour ne pas avoir des réactions purement émotionnelles vis-à-vis d'une autre culture.
Et c'est ce qui caractériserait donc l'ethnologue, cette capacité de prendre des distances, mais en même temps cette sympathie, n'est-ce pas?
Il faut avoir une sympathie ou une empathie, si je peux dire. Mais cela dit, moi je dirais comme Lévi-Strauss, c'est pas parce que j'ai une vue parfaitement, que j'essaye d'avoir parfaitement sympathique pour d'autres cultures que la nôtre, que cela m'empêche d'être membre de ma civilisation.
Est-ce que, Jacques Soustelle, vous avez, à l'époque de vos études, 1929, 1930, oui, donc au moment où le marxisme séduisait beaucoup de jeunes intellectuels. Est-ce que vous-même, vous avez été séduit par le marxisme ?
J'ai fait une approche expérimentale, en ce sens que il y avait autour de Langevin, qui a été, comme vous savez, un grand physicien, on disait qu'il n'y avait que lui et Einstein qui comprenaient la relativité généralisée, il y a eu un groupe de jeunes étudiants ou jeunes professeurs de différentes disciplines. Il y avait des psychologues, un astronome, un physicien, etc. Et on a essayé de voir dans quelle mesure la philosophie marxiste pouvait s'appliquer aux sciences. Et très vite, je me suis rendu compte que ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. L'explication du matérialisme dialectique ne tient absolument pas dans l'histoire des cultures. Il y a un exemple que j'ai souvent pris qui est celui de l'islam. Eh bien, l'apparition de l'islam, la chevauchée fantastique des gens de Mahomet ne s'explique pas par les rapports de production entre les marchands de Médine et ceux de la Mecque. Vous comprenez, ça ne marche pas. De sorte que, dans la mesure même où j'avais pu être, je n'irais pas tenté, mais intéressé, j'ai très vite compris que le marxisme n'était pas la clé universelle que certains prétendaient.
L'explication de l'histoire et
des dynamismes. L'explication de l'histoire, absolument pas. L'histoire est une chose beaucoup plus complexe, avec une multitude de causes et d'interactions, et les explications marxistes de l'histoire sont en fait pitoyables.
L'ethnologue que vous êtes et l'homme qui s'est intéressé particulièrement aux civilisations du passé et qui s'y intéresse encore, est-il intéressé au présent?
Ah ben oui, tout à fait. Je suis un homme de mon temps. Et d'abord, je ne pouvais pas ne pas l'être parce qu'il se trouve que j'ai vécu, je vis encore dans une phase très intéressante parce que très troublée. Alors, quand on a connu les années d'avant la Deuxième Guerre mondiale, puis la Deuxième Guerre mondiale où j'ai joué un certain rôle auprès du général de Gaulle et dans la résistance, puis la politique plutôt, disons, mouvementée de la 4e et de la 5e République, où j'ai occupé des charges assez importantes aussi, des responsabilités quelquefois graves, c'est évident que je suis un homme de mon temps.
Qu'est-ce que vous êtes allé faire en politique? Qu'est-ce que l'intellectuel brillant, car vous étiez considéré parmi les plus brillants de votre génération, qu'est-ce que vous êtes allé faire en politique et pourquoi ne pas rester à ce moment-là dans une chaire d'université et y faire
Probable que s'il n'y avait pas eu les événements de 1939 et les années suivantes, j'aurais fait une carrière purement universitaire. J'avais commencé, j'étais chargé de cours au Collège de France, j'étais professeur à l'école de la France d'Outre-mer, j'étais directeur adjoint du Musée de l'Homme, bref, c'était une avenue toute ouverte.
Et tout ça très très jeune dans votre vie, vous aviez à peine une trentaine d'années.
Ah ben oui, j'ai été membre du gouvernement provisoire du général de Gaulle à l'âge de 30 ans. Alors donc, c'est dire que j'avais une carrière universitaire. Bon, mais il y a eu la guerre, alors là il y avait des choix à faire. Et ce choix, je l'ai fait dès 1940.
Et puis alors, il y a pas le goût du pouvoir, donc, qui vous a...
Ah, pas du tout. Écoutez, je vais vous raconter un peu comment ça s'est passé quand, étant en 1940, au moment de l'effondrement de la France, j'étais au Mexique, parce que le gouvernement d'Aladier, à l'époque, m'avait expédié au Mexique pour essayer de mettre sur pied un bureau d'information. J'étais, à ce moment-là, considéré comme, parmi les jeunes, celui qui connaissait le mieux le pays, effectivement. Je connaissais bien le Mexique, j'avais beaucoup d'amis, même dans les sphères gouvernementales. Le président Cárdenas, par exemple, qui m'a beaucoup soutenu, etc. Donc, on m'envoie là-bas. À peine étais-je arrivé à Mexico que commence l'effroyable débâcle des armées françaises et britanniques. Et je me trouve donc très rapidement en présence du choix à faire entre le gouvernement de Vichy et un certain général de Gaulle, que je ne connaissais d'ailleurs pas du tout. J'ai appris, après 18 juin, peut-être au début juillet, qu'il y avait eu un appel. Alors j'ai télégraphié à Londres et le général de Gaulle m'a fait répondre « Venez ». Bon. Alors me voilà parti à travers le Canada, d'ailleurs, J'ai pris un bateau à St. John's, New Brunswick, pour me rendre en Angleterre. Et alors, j'ai pris le train. À cette époque-là, de Mexico à Montréal, il fallait 5 jours de train, je crois. Je rencontrais des tas de gens dans le train, des Américains notamment, et des Canadiens qui me disaient, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, je dis, je vais en Angleterre. Mais vous êtes fous. Et l'Angleterre est fichue. Et Hitler va défiler à Londres dans quelques jours. C'était la mentalité de l'époque, n'oubliez pas. Et par conséquent, ce n'était pas le goût du pouvoir, c'était plutôt un risque considérable que j'assumais à cette époque-là. Par la suite, d'ailleurs, à ce moment-là, je me disais tout de même, non, nous devons, en principe, nous devons tenir le coup. Mais enfin, il n'était pas très sûr. Alors, par la suite, je suis resté dans la vie politique. Je ne dirais pas par goût du pouvoir, mais parce que j'avais le sentiment qu'on pouvait essayer de faire quelque chose de positif. Et après tout, je dirais que pour un homme politique, il y a, mettons, 20% de chance pour, à un moment ou à un autre, faire quelque chose qui vaille la peine. Le reste du temps, on est contrarié par toutes sortes d'influences qui jouent dans tous les sens, et puis les événements ont une mauvaise habitude qui est de tourner différemment de ce que vous prévoyez. Mais cela dit, ça valait la peine, je crois. Je ne regrette pas.
En 61, après une longue amitié avec le général de Gaulle, vous donnez votre démission.
Oui.
Cela doit être très dur, quand même, de rompre cette amitié.
Oui, pas de donner la démission. Ça, je dois dire que donner sa démission, c'est souvent une grande satisfaction. Parce qu'on se sent tout à fait léger et libéré. Non, il était pénible pour moi, après 20 ans de collaboration étroite avec le général de Gaulle, de me trouver en désaccord complet avec lui, mais il y a des cas où il faut obéir à sa conscience, et puis c'est tout.
Mais est-ce qu'on a raison de croire, comme certains seraient tentés de le faire, de croire que vous étiez systématiquement opposé à toute décolonisation?
Pas du tout. Je dirais au contraire, car dès avant mon entrée au gouvernement de l'Algérie, n'est-ce pas, j'étais gouverneur de l'Algérie, d'ailleurs nommé par Mendès France et par François Mitterrand, n'est-ce pas, dont j'ai appliqué le programme. C'est un fait historique qu'on oublie un peu.
Que vous avez appliqué un programme de gauche.
Qui était à ce moment-là un programme de gauche modéré. Bien. Qui était l'application du statut, qui était l'intégration des droits de l'homme, etc., en Algérie, ce que j'ai fait. Personne d'ailleurs, même certains éléments du FLN le reconnaissent. Je me rappelle avoir eu une interview à la radio avec Hossein Aït Ahmed, il le reconnaissait. Mais quoi qu'il en soit, je concevais la décolonisation d'une façon tout à fait différente de celle qui a consisté à laisser se créer à tort et à travers de prétendus États dont beaucoup n'ont pas d'existence réelle, de substrat. Et l'exemple de l'Afrique le prouve, sont des échecs d'un point de vue économique, social et humain. On pourrait épiloguer à l'infini là-dessus. Mon idée, c'était celle de grands ensembles fédéraux ou confédéraux. Je suis convaincu que si l'on m'avait suivi dans la voie que je préconisais, aujourd'hui, l'Algérie serait indépendante depuis longtemps, mais il n'y aurait pas eu 1 200 000 chrétiens et juifs exilés, ce qui est tout à fait différent. Et même du point de vue simplement du développement économique, l'Algérie s'en trouverait bien mieux qu'après cette saignée extraordinaire que l'on oublie trop.
Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir échoué politiquement ?
Non, ce sont des, vous savez, l'échec et la réussite en politique sont des notions très relatives. Qui peut se vanter d'avoir toujours réussi? On réussit quelquefois on échoue. Si j'avais recherché une carrière politique, je pourrais penser que j'ai échoué, puisque je ne suis plus ni parlementaire ni ministre. Mais étant donné que je n'ai pas recherché cela, et que d'ailleurs, je ne recherche pas présentement, alors que je pourrais très bien le faire, surtout avec la nouvelle loi électorale qu'on vient de voter, je pourrais très bien être tête de liste quelque part. Il est à peu près sûr d'être élu. Mais je ne recherche pas, je suis candidat à rien.
Mais vous auriez quand même souhaité que les choses se passent autrement.
Souvent, on souhaite que les choses se passent autrement. Mais, écoutez, est-ce que le spectacle du monde actuellement vous paraît très réconfortant ? Non. Non. Moi, je suis... Alors, tout à fait indépendamment de ma petite personne, qui de toute façon est un élément passager, mais je suis tout de même assez effrayé et écœuré de ce qui se passe dans le monde actuellement. Le déchaînement des violences, des fanatismes, du mépris des uns pour les autres, c'est un monde très, vraiment très peu encourageant que nous avons sous les yeux actuellement.
Vous avez passé une partie de votre vie à vous intéresser à des hommes, à des peuples qui demain pourraient se dresser comme des ennemis des Occidentaux que nous sommes. Si cela devait arriver, est-ce que vous seriez déçu ?
Remarquez, les peuples dont je me suis occupé et auxquels je continue à m'intéresser d'ailleurs, puisque je poursuis mes activités ethnologiques, ce sont des Indiens d'Amérique.
Oui, mais en Amérique du Sud, actuellement, il y a quand même un bouleversement important du côté du Guatemala, du Salvador, etc. Et une attaque assez nette, assez précise.
Oui, ce ne sont pas les Indiens.
Ah, non.
Écoutez, au contraire, au Nicaragua, moi, je défends les Indiens qui sont actuellement victimes du régime actuel, n'est-ce pas ? Les Miskitos. Ce sont des malheureux Indiens sur lesquels j'ai beaucoup d'informations parce que certains de mes élèves ils sont allés, ont travaillé, m'ont rapporté la description de ce qui se passe. Je saisis cette occasion pour dire que la façon dont on se comporte vis-à-vis de ces Indiens, indépendamment de toute question politique, paraît que le régime de Managua est un régime de gauche. Moi, je veux bien. En tout cas, il ne manifeste pas dans son traitement des indigènes, car même le dictateur Somoza, dont on a dit beaucoup de mal, non sans raison d'ailleurs, au moins il avait un mérite, c'est qu'il leur laissait royalement la paix. Ils ne s'occupaient pas d'eux, ils faisaient rien pour eux, ils faisaient rien contre eux. Tandis que ces malheureux Indiens, aujourd'hui, sont persécutés, leurs villages brûlés, eux sont exilés, etc. Donc, actuellement, les événements graves qui se passent au Pérou, par exemple, n'est-ce pas, le Sendero Luminoso, au Guatemala ou au Salvador, ce ne sont pas les Indiens, ce sont généralement dans certains cas, des intellectuels, car le mouvement Sendero Luminoso, qui est terroriste, n'est-ce pas, au Pérou, est né à l'université d'Ayacucho. Et ce sont essentiellement des gens de la classe moyenne, de métis, pas indiens, qui en sont les protagonistes.
Qu'est-ce qui fait l'unité de votre vie, Jacques Soustaigne ?
Ah, l'unité. Y en a-t-il une ? Pas forcée. Il y a une unité physique. Il se trouve que c'est un certain groupe de cellules et de neurones qui constituent ma personne physique, laquelle se déploie à travers différentes activités.
Et vous avez parlé de votre conscience tout à l'heure.
Oui, ça, c'est une notion très profonde chez moi. N'oubliez pas que je suis protestant. Et chez nous, on a beaucoup insisté sur cette notion toujours dans l'éducation.
Qu'est-ce que ça implique pour vous, justement, d'être protestant ? Quelle part ça tient dans votre vie ?
Ça tient une part importante dans ma mentalité, si vous voulez, pour une bonne raison, c'est qu'un protestant en France est un minoritaire. Actuellement, en France, la minorité la plus minoritaire, c'est celle-là, justement, puisque nous sommes moins nombreux que les juifs et moins nombreux que les musulmans en France. Et nous allons bientôt commémorons cette année le tricentenaire de l'édit de Nantes,
la révocation de l'édit de Nantes. Rappelez-nous, s'il vous plaît, pour nous.
Il y a exactement 300 ans, le roi Louis XIV, persuadé à tort par de mauvais conseillers que les protestants n'étaient plus qu'une infime minorité prête à se convertir, a révoqué l'édit de Nantes que le bon roi Henri IV avait pris pour permettre la liberté de conscience, la liberté de religion en France. Il s'en est suivi des persécutions, une guerre sanglante et l'exil de nombreux protestants qui, d'ailleurs, ont surtout aidé au développement de la Prusse des Pays-Bas et de l'Afrique du Sud. Vous savez qu'en Afrique du Sud, depuis 1688, il y a une minorité importante de langue d'origine française, les Dutois, les Duplessis, les Devilliers, les Villioune, les Marais, etc., qui sont les descendants de Français exilés généralement via les Pays-Bas, n'est-ce pas?
Oui.
Et qui ont adopté d'ailleurs la langue africaine, c'est-à-dire la langue hollandaise, n'est-ce pas? Alors, ça, c'est resté comme une sorte de traumatisme profond dans une partie de la société française. Et dans mon enfance, les références à cette période étaient d'autant plus fréquentes que ma famille est des Cévennes, c'est-à-dire de la zone où s'est livrée la guerre des Camisards. Ma grand-mère avait un petit masque, comme on dit là-bas, un petit chalet, si vous voulez, qui fait de grosses pierres, mal équarries, qui avait été un fortin dans cette guerre, voyez-vous. Alors, tout ça, je me rappelle, le pasteur, nous, tous les ans, nous faisait une conférence sur la guerre des Camisards, la tour de Constance, que sais-je encore. Il y avait donc tout un folklore, si vous voulez, et l'emphase, l'accent était toujours mis sur le droit de chacun de défendre sa liberté de conscience et son droit de libre examen. Alors, ne croyez pas que je sois un mangeur de curé ou de catholique, n'est-ce pas? Au contraire, je suis tout à fait écuménique d'esprit, j'ai une grande admiration pour le pape, etc. J'ai beaucoup d'amis catholiques, la question n'est pas là. Mais je vous dis qu'il y a une conscience qui se forge dans l'enfance et qui tout de même a été marquée par cela.
Et comment, justement, vos études d'ethnologue, comment votre activité politique ont-ils pu interpeller votre foi chrétienne?
Eh bien, il est évident que lorsque, en particulier... Non, la politique n'est pas intervenue, sauf que, si vous voulez, j'ai pris peut-être une conscience, notamment quand j'étais auprès du général de Gaulle et chargé de son mouvement politique, n'est-ce pas, qui s'appelait le Rassemblement du peuple français. J'ai été amené à prendre conscience, peut-être plus qu'à d'autres moments, de l'importance en France et dans la politique quotidienne même, de ce qu'on pourrait appeler le courant catholique, n'est-ce pas ? Qui se manifeste par exemple dans la question de l'enseignement. J'ai été, dès 1945, étant député à la Constituante, j'ai été parmi les défenseurs de la liberté de l'enseignement. Voyez-vous ? Alors là, si vous voulez, la vie politique a joué un peu ce rôle. Mais c'est surtout en tant qu'ethnologue que j'ai été amené à avoir une vision des choses, que j'ai d'ailleurs exposée dans... en répondant à M. Chabanis dans son livre « Dieu existe-t-il ?» Réponse oui, n'est-ce pas ? À savoir que le besoin religieux est une constante fondamentale de l'âme humaine, prend toutes sortes de formes. Le christianisme est enraciné historiquement, d'abord en Palestine, puis dans l'Empire romain, puis chez nous. Nous sommes d'une civilisation chrétienne, le contraire n'est pas concevable. On peut concevoir que les hommes aient répondu à cette angoisse permanente de l'être humain par d'autres formules, des formules qui quelquefois même peuvent nous paraître aberrantes et démoniaques, n'est-ce pas, comme les sacrifices humains chez les Aztèques, par exemple, n'est-ce pas, mais qu'il y ait cette constante humaine de la recherche de Dieu, ça me paraît incontestable. Alors, qui chez nous prend historiquement la forme du christianisme.